fait combien de kilomètres pour venir ici?
Pas beaucoup. Je viens de la région du côté de Lyon, un peu plus loin, entre Lyon et Grenoble. Ouais, c'est ça, super. Voilà. Pour répondre à ta question.
Écoute, bienvenue.
Amen.
T'as vu le soleil qu'on a ici?
Voilà.
Ça te plaît?
Ça me plaît.
Tu veux pas rester avec nous?
Si.
Dieu te bénisse, mon frère.
Ouais. Merci. Alors, pour moi, c'est une grâce de venir à Grasse. Mais c'est vraiment, vous avez un magnifique pays. Et je pourrais dire que, je ne sais pas si vous réalisez, on peut voir et lire à travers le paysage combien la grandeur de Dieu, combien la puissance de Dieu est grande. Et il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et je crois que la nature nous parle de la parole de Dieu. En tout cas, je veux vous remercier pour votre invitation. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent. Je vois des visages que je connais. Avant de partager le message que Dieu a placé sur mon cœur, c'est sûr que je ferai certainement des bribes de mon témoignage, de vous parler de mon expérience, mais Dieu a placé un message sur mon cœur, un message général, un message pour l'Église avec un grand E, un message pour les croyants, pour les non-croyants. Au passage, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois ici, qui ne sont pas croyants, qui sont peut-être catholiques, musulmans, protestants, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a donc, voilà, il y a des gens qui viennent pour la première fois. Alors écoutez, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Sachez une chose, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous n'allez pas perdre votre temps. Et dans ce temps, je vous demanderai de... Alors, quand ça sera midi, mettez, reculez d'une heure. Parce que en Occident, le temps il passe tellement vite, les gens courent avec la montre. Puis nous, ben, nous un peu qui venons de l'Orient, on a le temps. Alors moi, je suis un maghrébin, hein, je m'appelle Ali Erda. Je vais prendre le temps qui m'est alloué. Respecter ce temps, bien sûr. Mais sachez qu'il y a un temps pour tout. Et ce temps qu'on va passer ensemble, il est important parce que c'est un temps sous la présence de Dieu. C'est un temps qui est favorable pour vous, pour chacun de nous, aujourd'hui. Avant de passer dans le message, je voudrais vous parler d'une petite histoire. Une petite histoire que beaucoup connaissent pour les croyants. Donc c'est dans Luc, l'évangile de Luc. Mais avant de vous parler de cette petite histoire, je me présente quand même. Je m'appelle Ali Erda, donc pour ceux qui ont dû peut-être voir le nom, l'invitation. Donc j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, une épouse bien sûr, et 3 enfants plutôt, et qui ont 22, 20 et bientôt 18 ans, le dernier, donc Sarah, Ketsia et Ismaël. Et c'est une grâce de Dieu. Je voudrais aussi vous dire une chose. Je vois qu'il y a des cheveux blancs parmi nous. Ce matin, je suis venu avec une charmante dame qui s'appelle Georgette. Donc, j'ai été hébergé donc, chez cette famille, chez Daniel, Michel et Michel, Ruth, tout ça. Et je vais vous dire une chose. J'ai discuté, j'ai partagé un moment avec cette dame. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, si on est là aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est parce que des gens nous ont précédés, des gens ont intercédé, des gens ont posé des fondements, des gens ont travaillé à ce que... Aujourd'hui, je peux leur dire, vous savez, vous voyez le fruit de votre travail. Ce n'est pas en vain. Aujourd'hui, quand on arrive à un certain âge pour les retraités, sachez une chose, ils ne sont pas bons à la retraite, mais ils ont encore plus de travail que vous parce qu'ils sont les intercesseurs. Ils sont ceux qui vous permettent d'être debout, qui nous permettent d'être debout. Alors honorons nos anciens, honorons ceux qui ont travaillé, ceux qui ont semé, ceux qui ont labouré. Alors je bénis tous ces anciens que je vois. Je reprends le fil de ma route. Donc c'est une grâce de Dieu. Dieu m'a donné une épouse, 3 enfants. Et aujourd'hui je chemine dans la voie du Seigneur, dans la voie de la lumière. Avant, je marchais dans les ténèbres. Et il est écrit dans la parole de Dieu, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais il est écrit aussi, le peuple qui était dans les ténèbres marche dans la lumière. Ça veut dire qu'il n'est pas resté assis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le peuple qui était assis dans les ténèbres s'est levé et il marche dans la lumière. La parole de Dieu dans Jérémie 29, 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, je veux être ce semeur d'espérance. Mes amis, Dieu a un avenir, un plan pour vous. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes en bon endroit. Alors, je prie vraiment le Seigneur de préparer vos cœurs, afin qu'après, quand vous entendrez le message, vous puissiez discerner la voix de Dieu, que vous puissiez faire abstraction de l'homme qui est sur la chair et entendre et écouter avec votre cœur. Entendre de vos oreilles, mais écouter avec votre cœur ce que Dieu a pour chacun de vous. Pour les croyants, saisissez ce qui est bon pour vous régénérer, pour vous fortifier, pour vous encourager. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, comprenez la situation dans laquelle Dieu veut aujourd'hui vous placer. Et pour ceux qui sont dans une situation négative, dans la situation d'où Dieu veut vous sortir. Donc dans Luc, au chapitre 10, il y a un docteur de la loi, excusez-moi, je parle assez fort parce que je bouge, je suis peut-être gestuel. Il y a un docteur de la loi qui s'adresse à Jésus-Christ, Yeshua el-Messie. Donc ce docteur de la loi entretient un dialogue avec Jésus au sujet de la vie éternelle. Comment obtenir la vie éternelle? Et Jésus donc interroge cet homme de la loi, cet érudit. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et comment lis-tu? Comment lis-tu? Alors, aujourd'hui, on pourrait se poser la question pour les croyants, pour les musulmans, pour les catholiques, pour différentes personnes. Comment comprenons-nous l'écriture? Comment lisons-nous? Que connaissons-nous de la loi? Alors, il y a plusieurs manières de lire la Bible, les Écritures ou le Coran ou autre, ou de s'instruire théologiquement. Il y a plusieurs manières de la lire. Donc, nous parlons de ce livre, la Bible, et nous pouvons lire la Bible comme un livre historique pour en connaître l'histoire. Nous pouvons la lire avec notre intellect pour en tirer des raisons et des réflexions. Mais il y a une chose qui est plus importante. Je crois que c'est la lire avec toute notre âme, toute notre force, avec notre cœur. Alors là, notre lecture, notre compréhension sera différente. Nous ne la lirons plus comme un livre d'histoire, mais quand on va la lire avec un cœur, avec une concentration, alors là, l'Esprit de Dieu peut nous éclairer. Notre lecture ne restera pas intellectuelle seulement. Sa parole sera la vérité pour nous. Alors, je vais vous citer trois citations de ces hommes qui ont lu certainement la Bible avec un cœur, qui ont pu certainement comprendre, ou qui plutôt, pour certains, je dirais, l'ont peut-être pas lu avec leur cœur, mais ont confirmé la Bible. Parce que certainement, ils l'ont lu avec une bonne réflexion. Notamment Victor Hugo, écrivain français. Victor Hugo, donc, écrivain français et je crois poète, ouais. Il était poète, Victor Hugo. Vous voyez, je n'ai pas fait les grandes écoles, mais je me souviens un peu. Victor Hugo disait, il y a un livre qu'on appelle le livre, un livre qui contient toute la sagesse humaine, un livre que la génération appelle le livre, la Bible. Et Victor Hugo ajouta, ensemencer les villes, une Bible par cabane. Je pense que si nos érudits auraient mis en pratique peut-être cette citation, je pense que notre monde actuel aurait un autre, le tableau de ce monde serait autre. Il y a un autre homme qui était président des États-Unis, c'est George Washington. George Washington était aussi certainement un homme intelligent, instruit. Et il dit dans sa réflexion, il est impossible de gouverner le monde droitement, sagement, sans la Bible. Et c'est la vérité, sa parole est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, les gens, avec toutes les technologies dans lesquelles nous sommes avancés, et je me rends compte que notre monde va très mal, il est en déséquilibre. Donc George Washington avait certainement raison. Il y a un autre homme qui vous étonnera certainement et que vous peut-être vous connaissez. C'est Mohammed, fondateur de l'islam. Lui-même a pris conscience. Mohammed, fondateur de l'islam, dans la Sourate 5, 68, dit « Ô gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien. » Mohammed, fondateur de l'islam, parle aux chrétiens. « Ô gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien si vous n'observez pas la Torah et la révélation qui vous a été révélée par votre Seigneur. » Donc Mohammed lui-même nous dit, si vous n'observez pas la Torah et l'évangile qui vous a été révélé par votre Seigneur. La Sourate 5, 68. Donc voilà, vous voyez, c'est formidable. Ces hommes, comment ils nous dépeignent l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous arrivons au troisième millénaire. Nous sommes en 2000 ans, 2000 ans après cette histoire de Jésus. Et on parle toujours de Jésus. Et notre monde va toujours mal. Pourquoi ? Donc en étudiant la Bible, vous remarquerez que avant la rédaction du Nouveau Testament, à la fin de l'Ancien Testament, il y a eu un silence de 400 ans avant la rédaction de l'Évangile du Nouveau Testament. Pendant cette période de 400 ans, il y a eu vraiment un silence de Dieu, un silence des prophètes. Et le peuple était au plus profond désespoir. Il était dans une attitude d'attente, de soupir. Et c'est à ce moment sombre de l'histoire, justement, que Dieu intervint pour reprendre, pour se reconnecter le peuple avec lui. Et Dieu, dans cette intervention, il eut un plan en utilisant Marie. C'est à ce moment sombre de l'histoire que Dieu prend la décision de sauver le monde. Parce que le monde était parti, vous connaissez pour la plupart des chrétiens, l'histoire de la Bible, de la Genèse, etc., avec Noé, tout ça. Pour les musulmans aussi, vous connaissez, puisque le Coran parle de tous ces événements dans l'histoire de la Torah, etc. Mais à ce moment, Dieu prend conscience de sa créature qui s'était détournée de lui et il décida par un plan d'envoyer en Marie Yeshua el-Messie, le Messie, Jésus-Christ, celui qui allait racheter le monde de sa vaine manière de vivre, celui qui allait reconnecter les hommes avec leur Créateur. Donc c'est magnifique, c'est ce plan de Dieu qui s'intéresse à sa créature. Mais les années passent et combien notre Dieu est Dieu use de miséricorde et de patience. Encore aujourd'hui, Dieu intercède, Dieu agit, Dieu envoie, Dieu tend encore sa main pour une génération qui semble lui avoir tourné le dos. Mes amis, depuis les temps chronos, depuis ces temps qu'on a appelés chronos, ces temps qui ont défilé, aujourd'hui, dans ce troisième millénaire, nous rentrons dans les temps kairos, les temps favorables, les temps de l'accomplissement, les temps où Dieu tend encore la main, mais les temps aussi kairos, les temps de la fin. Mes amis, il ne faut pas qu'on se trompe. Je vais bientôt entrer dans le message, mais j'ai fait cette introduction parce que je vais vous faire prendre conscience que ce message, il est prophétique en même temps. Vous voyez dans le temps lequel nous vivons. Et je fais juste une anecdote, j'ai fait un rêve avant de venir parce que j'avais préparé un message souple, mais Dieu me dit non, c'est comme ça. Puis après, j'étais dans mon combat. Après, mon épouse me dit, chérie, je ne prie, je me suis placé devant le Seigneur. Le Seigneur m'a dit non, ça sera ce message que tu devras donner. Et justement, j'ai eu un rêve, et ce rêve, c'était la mer. C'était une mer qui s'étendait, qui arrivait, qui touchait tous les villages, l'eau qui montait de partout. Et puis j'étais là et j'étais saisi d'épouvante. Je disais, mais la mer, elle est en train d'envahir, il va y avoir des gens qui vont périr. Et d'un coup, je regarde mon épouse, il y avait un petit groupe, un petit reste qui n'avait pas été englouti par la mer. Et j'ai dit à ma femme, chérie, la seule espérance, c'est Jésus-Christ. Alors pour vous expliquer ce rêve, j'ai dit, mais c'est quoi la mer qui monte? Il va y avoir un tsunami. En fait, la mer, c'est le symbole du monde, du monde. Et cette mer qui était en mouvance, en effervescence, en fait, représente notre génération, qui est en train de s'étendre avec toute cette mondialisation, les réseaux Internet, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit. Et donc, Dieu m'a dit, non, prêche et annonce, sonne de la trompette. Ça sera le thème de mon message. Je sonnerai de la trompette de la part de Dieu afin que vous connaissiez vraiment le réel message de la vérité, de la vérité. Donc, avant d'entrer dans le message, puisqu'il y a des amis musulmans, vous êtes des chrétiens, nous connaissons la Bible, nous avons parlé du Coran. J'ai aimé tout à l'heure notre frère Tahar qui parlait de Kalimat Allah, etc. Donc je vais parler de six questions dans deux parallèles. Donc trois questions dans le premier parallèle qui dit c'est quoi un chrétien? C'est quoi, que sommes-nous, nous chrétiens? C'est quoi un croyant? C'est quoi le chemin de la vérité, la vie? C'est quoi la parole de Dieu? Pour mes amis musulmans, le deuxième parallèle, c'est Al-Imran, les vrais croyants. C'est quoi? C'est quoi Al-Tariq, Al-Haq, Al-Sah, Al-Hayat? C'est quoi le chemin de la vérité et de la vie? Kalimat Allah. C'est quoi Kalimat Allah, la parole de Dieu? Mes amis, deux parallèles pour le Coran, pour la Bible, pour les chrétiens, les musulmans. Il y a deux parallèles. Mais il y a une confirmation de la parole de Dieu qui nous dit dans la Bible, dans Jean 8, 30, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. La parole nous dit qu'il est la parole de Dieu dans la Bible. La parole nous dit qu'il est l'esprit de vérité dans ce parallèle de la Bible et dans le Coran. Ce qui est magnifique quand vous étudiez, vous faites ces rapprochements, comme disait le frère, le Coran lui-même va confirmer ce que je viens de vous lire, de vous parler de la Bible dans Jean 8, 30. Le Coran lui-même, dans la sourate 3, nous confirme, dans la sourate Al-Imran, qui nous parle des vrais croyants. Le Coran lui-même nous parle de Jésus, du chemin, la vérité, la vie. El-Tariq al-Haq, Sah wal-Hayat, Kalimat Allah, la parole de Dieu. Il est Kalimat Allah. Le Coran lui-même nous dit, il est l'esprit de vérité, Huwa Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. Yasu al-Masih, Huwa Rabbi al-Alamin al-Tariq bin al-Abad bin al-Ibad wallah. Il est le chemin entre. Excusez-moi, je vais le traduire. Jésus-Christ est le chemin entre Dieu et les hommes. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Coran lui-même le dit, et dans 1 Timothée 2,5, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors mes amis, deux parallèles, la Bible, le Coran, on pourrait être dans une confusion, dans des divergences, mais il y a une seule convergence, cette convergence, c'est un seul et même Seigneur, un seul et même Dieu. Le Coran lui-même dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et le Coran et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Mes amis, on peut voir qu'à travers les religions, il y a des confusions, des divergences, etc. Mais qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Le Coran lui-même nous le dit. Et vous savez, dans le Coran, il est parlé de beaucoup de prophètes. Dans la Bible, il est parlé des prophètes. Mais j'aimerais reprendre ce qu'a dit aussi le frère, j'ai aimé. Tous les prophètes sont morts pour la plupart. Mais Jésus était un prophète. Il est mentionné comme prophète même dans la Bible, dans le Coran. Mais je voudrais vous dire que Jésus était plus qu'un prophète. Il était Ibn Allah. Jésus-Christ était le Fils engendré par l'Esprit Saint. Il n'a pas été enfanté par la chair, mais il a été enfanté par l'Esprit de Dieu. Donc je veux bien le préciser pour mes amis musulmans qui souvent font l'amalgame parce qu'on dit Jésus, Fils de Dieu, etc. Il y a tout de suite une barrière, une frustration à cause de cela. Mais Jésus n'est pas né de la volonté de l'homme, il est né de la volonté de Dieu. Et cela, mes amis, il n'y a que Ruh al-Quds, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ces choses et nous montrer cette parole. Donc la sourate, la sourate 543, par exemple, nous dit que la Torah vient de Dieu. Le verset 46 dit que Jésus a eu l'évangile de Dieu. La sourate 342 Al-Imran parle des croyants et des disciples de la vérité qui suivent le chemin de la vérité. C'est le Coran qui le dit. Mes amis, aussi, il y a une chose, quand j'étais à l'armée, j'étais dans le désert et on allait prier dans la mosquée qui était faite dans le désert. Et il y a une prière qui revient du Coran qui dit, pour mes amis musulmans, dont je ne vous apprendrai rien, et je sais que votre sincérité n'est pas à négliger. La première Coran disait « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ya rabbil alamin, ehdina as-sirat al-mustaqim » Mes amis, donc pour ceux qui sont musulmans, vous comprenez, je vois des sourires et tout. Donc, « ehdina », le musulman lui-même dans sa prière, il dit « Conduis-moi dans le chemin » de la paix, de la vérité, le chemin droit, el tariq, el sirat, el mustaqim. Donc, je ne sais pas si, en tant que musulman, mon ami, tu conçois, tu réfléchis comment Dieu, tu t'adresses à Dieu en lui disant de te conduire. Peut-être que ta vie a cheminé pendant un temps, mais sans t'en rendre compte, tu demandes à Dieu de te conduire. Et si tu prends cette prière avec tout ton cœur, tu vas réaliser que Dieu te conduira à ce chemin mustaqim, ce chemin de la vérité. Et si tu te penches, comme je disais tout à l'heure, comment lis-tu, comment comprends-tu, comment cherches-tu, alors Dieu va te conduire vers El Tariq, le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin que mes amis musulmans désirent tant dans leurs prières, 5 fois par jour, ils le récitent. Et j'étais parmi ceux-là. Bon, je n'étais pas croyant, je n'étais pas musulman, mais je récitais cette prière. Mais j'étais toujours tenu dans mes liens, dans ma folie, dans mon obscurantisme, dans ma violence. Et je ne trouvais pas le chemin. Et je récitais « Conduis-moi dans le chemin ». Mais je le récitais avec ma bouche, sans comprendre ce que je disais, certainement. Voilà, mes amis, il faut comprendre la différence, cette différence que j'ai soulignée entre la religion et la relation. Cette différence entre le sentiment, l'émotion humaine de l'esprit de l'homme, puis celle du Saint-Esprit révélant à l'homme la parole de Dieu. Il faut comprendre la différence entre la réponse de l'homme qui peut donner et celle que Dieu peut révéler. La différence entre l'écriture lue et l'écriture révélée par le Saint-Esprit. Amen. C'était la question que Jésus a posée au docteur de la loi. Comment lis-tu? Comment comprends-tu? Je vais prier avant de vous apporter le message. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces moments. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, mais j'ai besoin de ta grâce afin d'apporter ta parole de vérité, afin de faire connaître ton nom, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, je bénis chacun de toutes ces personnes qui sont présentes. Que tu ouvres l'intelligence, les cœurs, les yeux de toutes ces personnes qui ont besoin de te voir, Seigneur Jésus. Que tu te révèles à eux, que tu guérisses, que tu libères, Seigneur, que tu fasses ton œuvre selon ta volonté. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Alors le thème, comme je vous disais, faites abstraction de l'homme. On va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, de 30 à 36. Donc vous voyez, la technologie nous permet d'avoir la Bible dans le... On peut même passer au bled avec la Bible dans la poche et vous la faites multiplier. Tout ça, vous n'êtes pas fait arrêter à la douane. Alors, si quelqu'un a a sa Bible, qui a une bonne voix, qui on va faire lire? On va faire lire... Allez, Karim, mon frère, Jean 8, 30 à 36.
Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen.
Amen. Sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Il y a de l'eau là ? S'il vous plaît. Vous savez, nous les hommes, on parle, on a beaucoup soif. Et on aura plus soif quand le Seigneur sera revenu. Parce que sa parole est la vérité. Nous sommes faits de chair. Alors... vous serez réellement libre. Donc, connaître la vérité, connaître Jésus-Christ qui rend réellement libre. Dans ce texte, j'ai souligné quatre verbes. Quatre verbes. Donc, le verbe demeurer, connaître, être et affranchir, quatre fondements, quatre bases de fondement de la foi. J'ai souligné aussi l'adverbe réellement et l'adjectif libre. Vous voyez, on fait un peu de grammaire, un peu, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je n'ai pas fait les études de français, mais bon, je crois que je me débrouille pas mal. Donc, adverbe réellement libre. Mes amis, libre. C'est, Jésus dit, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, merci. Si on connaît réellement Jésus-Christ, pour le connaître, on doit demeurer, alors on sera réellement libre.
Ouais,
excuse-moi, je bouge beaucoup. Donc, vous serez réellement libre. Cet adjectif libre, ce n'est pas paraître libre, mais réellement libre. Je donne une anecdote. Quand je suis sorti de prison, on m'a ouvert les portes de la prison, on m'a dit « t'es libre ». Je suis sorti, je me croyais libre. Mais en fait, j'étais devenu plus prisonnier dehors qu'à l'intérieur de la prison. Mais Jésus, là, il dit, réellement libre. Ce n'est pas paraître libre, mais affranchi, affranchi de tout préjugé, de toute chose. C'est réellement libre. Plus esclave, ni de ci, ni de la religion, ni de la cigarette, ni des addictions, etc., etc., et j'en passe. C'est réellement libre. Donc, en regardant ce mot « connaître », vous connaîtrez, j'ai pris le dictionnaire pour voir la définition de ce mot et j'en ai tiré deux conclusions, une intellectuelle, une spirituelle. La définition intellectuelle du dictionnaire nous dit, sur le mot « connaître », c'est avoir l'idée, la notion d'une chose, être en relation avec, être enseigné, s'y connaître dans un domaine, être expert en quelque chose. Voilà les définitions que peut nous donner le dictionnaire au niveau du connaître, de connaître. Et il y a une définition spirituelle qui me parle chaque jour, qui peut parler chaque jour, et qui peut aussi, qui confirme aussi la parole de Dieu quand il dit que Dieu a passé par les temps d'ignorance. Il y a quatre révélations divines dont on ne peut pas contester. Je dirais, personne ne pourra devant le jour, devant Dieu, dire « moi je ne savais pas ». Parce que je vais vous donner les explications. La première révélation, c'est la nature. Si nous savons, Jésus disait « vous avez des yeux et vous ne voyez pas aux hommes » quand de son peuple il était là, parce que ça ne voulait pas dire qu'ils étaient aveugles, mais Jésus voulait leur ouvrir les yeux. « Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Mes amis, la nature est un tableau qui nous parle, qui nous enseigne, qui glorifie Dieu. Les corbeaux eux-mêmes, nous sommes en France, ils disent « crois, crois, crois » toute la journée, ils nous témoignent, ils nous évangélisent. Voilà la nature. Ensuite, il y a la pensée. Dieu nous a créés avec, il nous a fait, c'est mieux que les ordinateurs, même du troisième millénaire. Dieu nous a créé la pensée et il a tissé en nous l'intelligence. Il y a la troisième révélation qui est sa parole. Sa parole est la vérité, la Bible. Et il y a la quatrième révélation. Il y en a, ils vont dire, moi je ne savais pas lire. Je ne savais pas lire, jamais lu la Bible, jamais entendu, jamais entendu le Coran, jamais... Mais il y a le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. Il y a deux paramètres, le Saint-Esprit et la nature, vous ne pouvez pas les contester. Alors mes amis, et pourtant, à travers cette connaissance, et pourtant, beaucoup d'érudits, d'hommes de loi, des théologiens, des grands hommes aujourd'hui, dans notre génération qui nous gouverne, sans froisser nos théologiens parfois, ou des hommes qui se prétendraient avoir la science infuse. Et pourtant, même ces hommes ne connaissent pas la vérité, de la vérité. Ces hommes-là ne connaissent pas Jésus réellement. C'est pour ça, mes amis, connaître Jésus-Christ, connaître réellement Christ. Et je vous donne un exemple de ce que je vous dis, que même les docteurs de la loi, Nicodème, dans Jean 4, face à Jésus. Nicodème était docteur de la loi, il croyait connaître la loi. Il croyait, en Israël, c'était certainement un homme d'une grande notoriété, qui possédait une science. Mais face à Jésus, Nicodème ne connaissait pas la vérité. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Mes amis, la parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6 que faute de connaissance, le peuple périt. Aujourd'hui, autour de nous, beaucoup de gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Mais aussi, c'est paradoxal, il y a des croyants qui connaissent Jésus. Mais comment le connaissent-ils? Comment connaissent-ils Jésus? Vous connaissez le film 2012? Vous connaissez celui qui l'a fait, si je vous demande? Vous connaissez, l'Afrique du Nord? Mais vous n'y êtes jamais allé. Connaître et connaître. Mes amis, la vérité, c'est connaître réellement Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est une relation verticale qui nous connecte avec le Créateur, avec Dieu, avec Rabbil Alamin. C'est cette relation verticale qui va nous donner un équilibre horizontal, qui va éclairer notre intelligence, notre science, etc. On a beau lire tous les livres de théologie, on a beau feuilleter le Coran, la Bible, etc., les hadiths, on a beau s'inscrire dans les plus belles écoles de théologie, on en sortira la tête bien remplie, mais bien confuse parfois. Mais mes amis, ce que Dieu veut, c'est que nous le connaissions réellement, c'est que nous ayons une relation verticale. Et je pense que si notre monde d'aujourd'hui se reconnecterait à Dieu et se déconnecterait un peu de nos irréalités et de nos fils conducteurs d'Internet, etc., qui nous prennent la tête et qui nous mangent petit à petit le cerveau. Je pense que si notre monde aujourd'hui se reconnecte avec la relation verticale, l'autre monde va retrouver un équilibre horizontale entre les uns et les autres, et l'équilibre va se faire. La parole nous dit, il est la lumière, et la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue, et vous voyez le monde, vous voyez notre génération, mais à tous ceux qui l'ont reçue, gloire à Dieu, amen, vous êtes devenus des enfants de Dieu, nés non de la chair, ni de mais de l'Esprit de Dieu. Voilà, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent réellement Christ, vous êtes une nouvelle création. Votre vie a changé. Vos façons de vous comporter ont changé parce que ce n'est pas la théologie qui vous a transformé. Ce n'est pas le fait d'aller dans un temple ou quoi que ce soit qui vous a transformé. Mais c'est parce que vous avez rencontré ce Christ libérateur qui est venu frapper à la porte de votre cœur. Et vous avez pu lui ouvrir votre cœur. Il est venu faire sa demeure en lui. Et vous demeurez avec lui. Il vous a affranchi, mes amis. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce merveilleux Sauveur qui frappe à la porte de son cœur, vous aurez l'occasion de vous approcher de lui si vous voudrez qu'on prie pour vous. Mes amis, aujourd'hui, le monde nous dit, quand on parle de liberté, je suis libre, je suis libre. Je me souviens de mon époque, il y a une chanson qui disait « Il est libre, Max, il est libre. » Puis elle a fait un bébé toute seule. Vous savez, c'était la liberté, l'anarchie, tout. Et chez nous, les Arabes, ils disaient « Ah, elle guettait la liberté, elle guettait la liberté. Elle trouvait la liberté, elle guettait la liberté. » Oui, mais la liberté, quand on est chez nous, on dit « Elle guettait la liberté. » Ça veut dire « Ah, t'as trouvé la débauche maintenant, la liberté, t'as fait tout ce que tu veux. Hein. Maintenant, t'as quitté t'as quitté la bonne route, la valeur et tout, t'es parti dans la corruption. » C'est ça. Se croire libre, sans Dieu, sans le Seigneur, sans être affranchi de cette réelle liberté, c'est être prisonnier de sa propre liberté. Ça, ce n'est pas écrit dans un livre, c'est mon idée, c'est ma philosophie. Se croire libre sans Dieu, c'est être prisonnier de sa propre liberté. En tant que berbère, je me croyais libre. Je me disais, je suis libre, je suis un amazirène. J'étais un ancien gangster, un ancien voyou, j'avais peur de personne. Et vous voyez comment Dieu transforme les choses aujourd'hui. Je suis un homme qui vous aime, qui vous parle de l'amour de Dieu. Quelle grâce! J'étais un homme qui parlait avec des armes, qui marchait avec des armes. J'avais un visage avec des stigmates de haine et de violence. Et je me croyais libre! Je me disais, je suis un amazirène, je suis un homme libre! J'étais orgueilleux, nous les Kabyles! Et en plus, j'étais raciste. Parce que j'étais au-dessus de tout le monde, j'étais libre. Je voulais que personne ne me commande. Mais quel esclave j'étais, mes amis. Quel esclave. Mais quand j'ai rencontré Christ, je sais ce que c'est que la vraie liberté. Alors, mes amis, notre monde qui se croit libre et qui vit avec tant de souffrances, tant d'addictions, pour ne pas mentionner tout, je prendrai simplement des choses sans froisser les frères et les sœurs, ou sans froisser ceux qui viennent pour la première fois, mes amis. Peut-être que vous êtes pris dans votre lien, dans l'alcool. Peut-être que c'est la drogue. Peut-être que c'est des choses que je ne voudrais même pas étaler. C'est des addictions qui vous tirent vers le bas, qui vous entraînent à la débauche, qui vous entraînent au déséquilibre, peut-être dans votre couple, peut-être dans vos relations entre amis, et peut-être même entre croyants. Mes amis, ce monde qui n'arrive pas à se défaire de ses liens. Aujourd'hui, ce monde qui est en effervescence, ce monde dont nous voyons nos politiques immorales, ce monde qui aujourd'hui appelle le mal bien et le bien mal, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 5:20, « Malheur à ceux qui font ainsi ». Et aujourd'hui, je peux vous dire, et je ne veux pas être un prophète qui dit des prédictions, je suis un prédicateur de l'Évangile, je vais vous dire, dans la parole de Dieu, il est écrit que la terre vacille, elle tremble, son péché pèse sur elle. Il y a un temps, mes amis, je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans les temps de Kairos, nous sommes dans les temps de l'accomplissement, il y a un moment, le déclin. Aujourd'hui, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera un jour. Ils ont prédit 2012, mais la parole de Dieu nous dit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur nous avertit par sa parole. En sondant les Écritures, nous voyons que nous arrivons au terme des prophéties. Nous voyons qu'aujourd'hui, la trompette sonne, Bienheureux ceux qui ont les oreilles ouvertes. Bienheureux ceux qui voient l'arche au milieu de la mer. Il y a encore de la place, car Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son objectif. Mais malheureusement, beaucoup ferment leur cœur et leurs oreilles. Mes amis, pour en revenir aux croyants, vous savez, on peut être croyant. On peut vivre dans le passé. On peut s'être converti, baptisé, mais traîner son passé, ses blessures. On peut être esclave. On peut être lié par diverses addictions. La parole nous dit, dans Romains 12, 1, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que ce siècle présent nous montre la débauche, nous montre, je ne vais pas faire de la politique, mais pour les anciens qui ont connu l'époque où il y a les valeurs du couple, de la famille, les valeurs qui ont été posées, les fondements qui ont été posés par la création, par Dieu lui-même, aujourd'hui bafoués par notre monde. Nous avons dépassé les temps de Sodome et Gomorre. Mais mes amis, la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous livrez pas au péché. Choisissez qui vous voulez servir. Pour ceux qui sont croyants, qui ont pris déjà une décision, qui se sont déjà approchés de Dieu et qui sont là, Dieu vous met face à un choix, mes amis, pas une condamnation, mais Dieu, dans son amour, vous dit, choisissez qui vous voulez servir. C'est comme si là, Dieu, aujourd'hui, vous mettait un magnifique frigo rempli de bons éléments nutritifs et que vous allez piocher dans les sandwichs qu'il y a une semaine. C'est comme si Dieu vous mettait une jolie piscine pour vous baigner et que vous alliez vous baigner dans la mare. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre monde. Dieu, aujourd'hui, étend sa grâce. Dieu veut donner le meilleur. Dieu veut faire prospérer ceux qui sont avec lui. Dieu veut les emmener à la maturité. Et souvent, on est là, et je vous parle de ça parce que c'est mon expérience. J'étais là, j'étais chrétien, j'avais reçu Jésus, j'avais découvert l'Évangile. Mais je ne connaissais pas réellement Jésus. J'avais lu la Bible. Mais je ne connaissais pas réellement Jésus. Et j'étais pris là dans mes addictions. Et j'étais alcoolique. Et j'étais malheureux. Et je me cachais pour boire. Et j'allais à l'assemblée. Et puis je disais, ouais, moi j'ai lu la Bible, j'ai lu l'Évangile. Mais je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je priais comme ça. Et puis voilà, j'avais fait ma bonne action, j'avais lu la Bible. Mais comment je la lisais? Comment je me comportais avec mes frères et sœurs? Je n'avais pas encore d'amour. Mon cœur n'était pas encore travaillé par l'Esprit de Dieu. Jésus n'était pas venu encore habiter dans mon cœur. Je ne pouvais pas me permettre de poser mon oreille, ma tête sur l'épaule de Jésus. Quelle grâce, mes amis, quand vous recevez Christ et que vous sentez son étreinte et que vous l'entendez murmurer à votre oreille qu'il vous aime et qu'il est là et qu'il vous prend dans cette mare sale et qui dit, moi je vais te laver, moi je vais te nettoyer, mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu choisis que je vienne vers toi, mon ami? Dans le Deutéronome, dans la parole de Dieu, la parole déclare, elle dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, choisis la vie. Mes amis, en tant qu'anciens, nos amis musulmans, ils disent souvent, c'est le mektoub. Et moi-même, dans une partie de mon livre, je parle de ce mektoub, où je développe le mektoub. Dieu n'a pas écrit une histoire en disant, c'est le mektoub, ce qui est arrivé est arrivé. Dieu a écrit un mektoub. Et le mektoub, ce qui a été écrit par Dieu, est que... Ce qui a été écrit par Dieu, c'est que... Pardon. Je suis dans le... Voilà. Ce qui a été écrit par Dieu, c'est un avenir de paix et d'espérance. Dieu a écrit de bonnes choses pour nous, et souvent on attribue à Dieu le malheur. Et nous, chez nous, les Nord-Africains, tout est mektoub. T'as écrasé quelqu'un, c'est le mektoub. T'as pris une cuite, t'as frappé ta femme, tu l'as envoyé à l'hôpital, c'est le mektoub. Tout est mektoub. Tout ce que tu fais de mal, c'est mektoub. C'est réglé, hein. C'est mektoub. Mais Dieu a écrit un autre plan, mon ami. Il a écrit aux hommes le bon mektoub. Si tu prends le chemin de la vie, t'as la vie. Tu prends le chemin de la mort. Voilà le mektoub, le destin, c'est ça. Tu choisis ça, tu choisis ça. Nous avons des choix à faire, mes amis. Nous avons des choix, soit la lumière, soit les ténèbres. La parole de Dieu nous dit de se mettre en règle, de faire la démarche capitale de repentance, de naître de nouveau, sans quoi nul ne verra le Seigneur. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pour ceux qui sont croyants, mes amis, je vous exhorte à continuer dans votre marche, à continuer dans cette espérance, parce que la couronne vous est réservée, parce que sa promesse est la vérité. Pour toi, mon ami qui vient peut-être pour la première fois, je t'encourage à découvrir ce merveilleux Sauveur. Et dans la parole de Dieu aussi, c'est aussi paradoxal ce que je vous dis, dans la parole de Dieu aussi, Dieu nous dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Yeshua al-Massih, Jésus-Christ. La repentance, se repentir, se convertir, c'est quoi ? Cette repentance, c'est celle qui va donner accès, qui va donner accès au salut. C'est la voie que Dieu propose à l'homme, la repentance. Se repentir, mes amis, c'est demander pardon et pardonner en retour, en recevant pardon, le pardon. Pardon, le pardon. Le don, c'est Christ qui nous a donné son pardon. En recevant pardon, le pardon de Christ. C'est ça, se repentir. C'est si on a fauté, si on a fait un échec, on n'est pas condamné par Jésus. Les Écritures ne nous condamnent pas, mais les Écritures nous appellent à la repentance. Et Dieu, dans son immense grâce, tend encore ses mains. Ce n'est pas les clous qui ont retenu Christ sur la croix, mais c'est son amour à cause de nous. Se convertir, ces trois facteurs d'une vie nouvelle, se convertir, c'est changer de comportement, se détourner du mal et se tourner vers Dieu. Bien sûr, mes amis, vous me direz, c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour un homme qui pendant 20 années a traîné dans l'alcool, a traîné dans la poussière, c'est pas facile, mes amis. Mais la parole de Dieu, quand vous la sondez dans les Écritures, il est écrit, il est venu libérer les captifs. Ésaïe 61, 1 à 2. Il est venu libérer les captifs. Et cette parole qui s'accomplit dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ, dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et un peu plus loin, et vous serez réellement libre. Voilà la vérité de la vérité. La parole de Dieu a pourvu un plan ordinaire, mais extraordinaire pour le monde. Ce plan décidé après l'arrêt du Nouveau Testament, 400 ans après la promesse de Dieu, il envoya Jésus-Christ. Les prophéties s'accomplirent. Et à aujourd'hui, nous voyons quelle grâce, combien Dieu veut libérer les gens qui sont sous le joug de l'esclavage du péché. Mes amis, quelle grâce! Mais c'est aussi, encore, paradoxal pour beaucoup d'autres. Mes amis, c'est paradoxal. Dieu a un plan de bénédiction, de grâce. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, parce que Jésus-Christ est venu la première fois, il a annoncé la bonne nouvelle de la paix, etc. C'est vrai, pour ceux qui se repentent et qui acceptent Christ, qui rentrent dans l'arche. Mais il est dit dans Matthieu 10, 34, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire sa parole de justice et de vérité. Parce que Christ, il est à la fois le lion et il est à la fois l'agneau. Christ aussi nous aime, mais Christ aussi est attristé parfois à cause de nos comportements, à cause de nos manquements. Si la lumière s'éteint, elle brille dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Matthieu 10, 35 nous dit, Jésus a dit qu'il est venu non pour apporter la paix sur la terre, mais l'épée, mettre la division. Alors, c'est les messages dans l'Église, on n'aime pas bien ça, la division. Mais sachez une chose, C'est pas diviser l'Église, pas diviser les frères, mais il est venu pour l'unité en divisant l'adversité. Jésus est venu diviser ce qui nous divise. Il est venu diviser le monde qui est corrompu pour qu'il nous unisse. Il est venu diviser le mauvais du bon. On ne peut pas faire de compromis. Soit on est dans la vérité, soit on est dans le mensonge. Je vous disais tout à l'heure que dans Ésaïe 24-20, qui va confirmer ce que je vous dis, les Écritures déclarent que cette terre, elle est réservée pour la colère à venir et le feu. Et nous pouvons constater qu'à la lumière de la science, nous voyons à quel déclin nous sommes. Et je peux vous dire qu'il y a quelques mois plutôt, les scientifiques avaient déclaré que la Terre était sortie de son axe initial de 8 cm. Ça vous paraît peut-être peu, mais si vous regardez la science et tout ça, vous rendrez compte que 8 cm à la surface que la Terre tourne, c'est énorme pour notre génération. La Terre et le ciel s'ébranlera. La Terre déchire, elle craque, elle vacille comme un homme ivre. Mes amis, ne soyons pas sensibles au son de la trompette. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Je ne veux pas jouer le prophète, je ne veux pas vous dire, vous faire peur. Mais mes amis, je veux vous encourager à vous tourner vers Dieu, à vous tourner vers le salut. Je veux vous encourager à entrer dans l'arche. La porte est encore ouverte aujourd'hui, mes amis. Demain, peut-être, il sera trop tard. Mes amis, c'est ainsi. Ce merveilleux message que Jésus, quand il est venu, il l'a confié aux disciples. Allez, annoncez la bonne nouvelle. Annoncez la repentance et le salut. C'est ce message extraordinaire. C'est par ce message que Jean-Baptiste, ayant précédé la venue de Jésus, Yeshua le Messie, a annoncé aux hommes. C'est ce message que Jésus-Christ a annoncé. Ce fut l'unique message, le message lui-même que Jésus, tout au long de son ministère, a prêché la repentance, le salut, le pardon. Ce n'est pas un spectacle, le salut, mais c'est une importance, c'est l'éternité, le salut. Mes amis, le fondement du message central du salut pour tous, il est fondé sur un seul et même principe. L'amour de Dieu, marahba, Allah. Dieu vous aime. Et c'est à cause de cela qu'il est venu, Yeshua al-Masih, nous réconcilier avec notre Dieu. Ce fondement qui nous parle de l'amour, j'ai vu qu'il y a une dame musulmane qui vient de rentrer, Marhababik, Yaman. Je suis vachement ému. Il nous parle de Mrahba. Chez nous, les Maghrébins, c'est à vous. C'est à vous de parler de l'amour de Dieu, le Mrahba. Pour ma vie personnelle, je n'ai jamais connu le verbe aimer. Je n'ai jamais quelqu'un qui m'a pris dans ses bras. Je n'ai pas connu ce privilège. J'ai été élevé par ma grand-mère et ensuite je suis arrivé en France et j'ai connu mes parents. Mais quand vous connaissez cet amour, marahba, donnez pardon pour le pardon de nos fautes. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des gens qui vivons mais Rabbil Alamin, Dieu, dans son amour, a envoyé Yeshua al-Masih pour nous révéler son pardon, pour l'annoncer aux hommes, pour les appeler à la repentance. C'est ça. C'est ça le message central. On peut faire tout le tour, mais ce message central, ce fondement, et qui nous dit à tous ceux qui croient en son nom et qui l'ont accepté comme sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants. Walad Allah. Ibn Allah. Enfants engendrés, non enfantés. Mashi. Weled, mais Ibn, c'est engendré. Nous n'avons pas été nés, mais nous avons été nés de l'Esprit. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. des enfants nés de la, non de la chair, mais de l'esprit. Voilà le plan de Dieu, mes amis. C'est ce que Yeshua le Messie a accompli en donnant sa vie pour toutes les nations, que ce soit les Chinois, les Arabes, les Tsars. Rabbil alamin, Allahu wahd, il n'y a qu'un seul Dieu. Allahu wahd, kalimat Allah, tegulunab li Rabbil alamin, huwa ruh al-Qudus, huwa li ba'atna Yeshua le Messie, tariq bin al-ibad wallah. Il est celui qui nous a envoyé Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, qui nous conduit vers Dieu. Amen. Mes amis, connaître Dieu, donc, pour, je conclue. Il est midi. Pardon ? Voilà. Je conclurai. C'est vrai qu'on a pris un peu de temps, mais on prendra s'il faut encore du temps. S'il y a encore des gens qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin qu'on prie pour eux. J'étais condamné, mais Dieu m'a fait grâce. J'étais, je peux dire, aveugle, mais maintenant je vois. J'étais condamné par la médecine, alcoolique, drogué. Dieu m'a donné la vie et il me l'a donné en abondance par sa grâce. Et c'est pour ça, mes amis, si vous avez besoin, ce n'est pas un homme, ce n'est pas des hommes, mais c'est Christ lui-même, Ruh al-Qudus, qui descendra sur vous et qui répondra à vos besoins. Mes amis, connaître Dieu, ma'rifat Allah, ce n'est pas la religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée. Ma'rifat Allah, ce n'est pas des dogmes, mais c'est une relation personnelle. C'est par la prière, c'est par le jeûne, en priant, en jeûnant. Comment j'ai combattu, comment j'ai remporté des victoires? C'est en priant, mon Dieu, Rabbil Alamin. C'est en priant, c'est en jeûnant, c'est en me mettant à genoux pour remporter les victoires, pour me débarrasser des liens qui m'avaient attaché dans l'obscurité. C'est en priant, c'est en jeûnant, c'est pas une religion. J'ai pas fait d'études bibliques, j'ai pas été voir les grands rabbins, j'ai pas été voir les grands imams, j'ai pas été voir les Jean-Paul II, comment il s'appelle maintenant, Benoît XVI, ou je sais plus, 17. Voilà, je me suis adressé à mon Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il y a un pont maintenant qui a été, il y a une connexion avec Rabbil Alamin. Dieu, il m'a pas dit, vas-y, je te jette. C'est vrai que quand on lisait les Écritures, on posait la question, il disait, chez nous, on disait, Dieu seul sert, là où elle, on ne sait pas si on va aller au paradis. Mais Dieu, quand il nous écrit dans sa parole, il nous écrit, même le Coran lui-même, il nous dit que c'est celui qui va nous amener au paradis, c'est celui qui va payer nos fautes, celui qui va nous laver nos saletés. Mes amis, je conclurai, la vérité, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. Hébreux 12, 14. La vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Connaître la vérité, c'est la relation personnelle avec Dieu, l'éternel. La parole de Dieu nous dit, Jésus déclare, voici, je me tiens à la porte. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mes amis, si vous avez besoin de la grâce de Dieu, si vous avez un besoin particulier, si vous avez besoin d'être affranchi, guéri, libéré, alors approchez-vous. L'esprit et l'épouse disent « viens », que celui qui entend dise « viens », et que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pas cette eau qui ne peut désaltérer le corps et l'âme. J'aurai toujours soif. Mais les sources qui coulent en moi sont des sources d'eau vive. À chaque battement de mon cœur tressaille l'allégresse, parce qu'il a changé ma vie. Mon ami, si tu as saisi le message de la part de Dieu, donné par un homme, mais avec tout mon cœur, mes amis, sans faire de manière, alors mon ami, je t'invite à t'approcher. Je prierai pour toi. On priera pour toi avec des frères, des anciens qui sont dans l'assemblée. Nous pourrons prier pour toi, pour que tu reçoives la grâce, pour que tu reçoives ce dont ton cœur désire. Je ne peux pas lire dans ton cœur, mais Dieu, il est celui qui lit dans le cœur et dans l'âme. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon ami. Si tu as besoin de sa grâce, alors approche-toi et on pourra prier pour toi. Amen. Éternel mon Dieu, Ya Rabbi al-Alamin, Unta al-Haq, Unta al-Sah, Unta al-Hayat, Unta al-Tariq, Wal-Tariq. أنا تكلمت بلي واش حطيت في قلبي. J'ai prêché ta parole selon ce que tu l'as mis dans mon cœur. Seigneur, je te prie et je te remercie parce que ta parole a été annoncée. Elle a été semée, Seigneur. Que cette parole devienne le message d'espérance. Que cette parole devienne, Seigneur, vraiment une grâce pour ceux qui l'ont entendue. Qu'elle fasse prospérer ton peuple et qu'elle fasse prendre conscience de ton retour imminent, Seigneur. Sois béni, sois loué. Amen. Amen. Amen.